Salut à toutes et à tous, c'est Julie, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes lundi 9 mars, ou mardi, si vous nous écoutez en rediff, et si c'est le cas, bonne matinée à vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième de nos 4 émissions spéciales élections municipales. À l'occasion des municipales 2026, l'équipe explore des sujets de société qui touchent les Rennais et les Rennaises. Et nous avons fait le choix de ne pas inviter les candidats et candidates à la municipalité, mais plutôt des experts ou responsables associatifs venant de différents horizons pour répondre au sujet de nos 4 thématiques. Au programme de l'émission du jour, le sentiment d'insécurité à Rennes, et pour l'interview, nous avons reçu Philippe Milburn. Manon, c'est toi qui t'es entretenu avec lui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, nous avons reçu Philippe Milburn, professeur de sociologie à l'université Rennes 2. Il nous a parlé des phénomènes de délinquance, notamment urbaine. Nous avons aussi abordé la question du trafic de drogue et du ressenti des Rennaises et Rennais à propos de la sécurité dans la ville, et surtout de ce qui peut être fait par les municipalités à ce sujet, sans tomber dans la surveillance ou la répression.
Le premier tour des municipales a lieu dimanche et la sécurité, comme on l'a dit, est l'une des premières préoccupations des Rennais et des Rennaises. Mais qu'en disent les programmes ?
Eh bien, l'omniprésence de l'insécurité dans les programmes suit la tendance de ce qu'on peut voir dans les médias. Tout le monde en parle et on peut lire que ce sentiment arrive aujourd'hui en tête des préoccupations locales. Si ce ressenti occupe une place aussi importante, les réponses des différents candidats sont assez unanimes. Augmenter la présence des forces de l'ordre et équiper la ville de milliers de dispositifs de vidéoprotection. Et on le rappelle, si une hausse des incivilités a été rapportée ces dernières années, l'insécurité en elle-même est un sentiment et donc très difficilement mesurable.
C'est pourquoi nous avons aujourd'hui choisi de partir à la rencontre des habitants et habitantes de Rennes dans les quartiers de Kennedy et de Sud-Gare pour s'intéresser à leurs ressentis tout en les mettant en perspective avec l'interview du sociologue Philippe Milburn. Ainsi, nous avons posé une question simple aux Rennais et Rennais. Est-ce que vous voyez l'insécurité autour de vous ? Est-ce que vous la vivez à Rennes ? Ou est-ce que vous en entendez seulement parler ?
Mais d'abord, on la voit. Ça, c'est... Et de toute façon, oui, il faut faire quelque chose, parce que sinon, ça va mal tourner. Ben, on voit bien tout ce qui se passe, on n'est pas bête. Hein. Il y en a tellement.
On n'a pas de morale avec tout ce qui se passe. Parce que maintenant, on sort le matin, l'après-midi, on ne vient plus. Hein.
Ah ben ici, ce n'est pas en train de venir l'après-midi, non. C'est hors de question.
Parce que c'est pire. Hein. C'est pire, ça craint plus.
Vous ne savez même pas par qui vous êtes suivi, si vous allez être attaqué ou pas. Où, là ?
Depuis quelques années, on voit des zones, en fait, comme par exemple la dalle Kennedy, en fait, qui changent vraiment beaucoup avec tous les problèmes de deal qu'on a connus il y a quelques mois et qui sont toujours présents. Mais non, la sécurité, alors moi, je la subis pas, en fait, parce que voilà, j'ai pas peur de me promener dans le quartier, de faire des choses, etc. Mais je sais que j'ai des voisins qui sont souvent assez âgés, qui maintenant craignent d'aller dans certains coins. Maintenant, on fait leur course à Carrefour Market sur la dalle, ils ont construit une belle piscine, ils sont en train de refaire le parking à côté de Jean Moulin. Je trouve que c'est un peu... on se montre en fait. C'est des choses qui vont apparaître dans les journaux, dans les médias, parce que voilà, on fait des choses intéressantes pour le quartier. Mais au final, en fait, il n'y a pas grand-chose de fait, en fait, pour les habitants, les gens qui sont dans le quartier, en fait. Voir des policiers, des voitures de police, c'est pas, à mon sens, c'est pas la solution. Il faut vraiment qu'il y ait des gens en permanence sur le quartier. Enfin, il y a la maison de quartier, il y a les éducateurs, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place. Avant, il y avait beaucoup d'associations sur le quartier. Là, elles ont un peu déserté la zone, en fait. Le Sac Colbert, la salle de basket, je crois qu'elle est quasiment plus utilisée. Enfin, il y a un club de foot, mais ça dépend de regard.
Il m'arrive de la voir, effectivement, dans certains quartiers plus particulièrement. J'ai la chance de travailler plutôt de manière assez centrale ici à la gare de de Rennes, donc je dirais pas trop à ce niveau-là. Au niveau de mon habitat à la Courrouze, c'est pas marqué en fait. Après, dans certains quartiers rennais pour lesquels on est amené à passer, effectivement, il peut y avoir ce sentiment d'insécurité. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, par ailleurs. Donc ça peut contribuer certainement à un climat aussi particulier d'attention, en tout cas de mettre en exergue ces sentiments d'insécurité.
Bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'insécurité. Enfin, moi, j'en ai pas vécu personnellement. Après, c'est vrai que j'entends des histoires un peu... Enfin, je vois dans les médias tout ça, donc oui, je pense que c'est dans les médias.
Écoutez la danse du temps de Tiburg sur Canal B et on retrouve maintenant Manon pour l'interview du jour avec Philippe Milburn, professeur de sociologie au sein de l'université Rennes 2 pour traiter de la montée du sentiment d'insécurité à Rennes. Pour la troisième des quatre émissions spéciales municipales, nous allons aborder donc le thème de la sécurité à Rennes, ou plutôt de l'insécurité. Et vous l'avez sûrement remarqué à l'écoute des interventions de ces habitants et habitantes de Rennes, les avis divergent sur le sujet. Certains et certaines ont déjà vu et vécu des moments où ils et elles se sont sentis en insécurité, et d'autres pensent que ce phénomène est amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous accueillons Philippe Milburn, professeur de sociologie à l'université Rennes 2. Bonjour.
Bonjour.
On peut définir l'insécurité de plusieurs manières et je vais vous lire trois définitions du mot selon Larousse. La première est définie comme donc un état d'un lieu qui n'est pas sûr, qui est soumis à la délinquance ou à la criminalité. La deuxième correspond au sentiment de vivre dans un environnement physique ou social favorisant les atteintes aux personnes et aux biens. Et la troisième correspond à l'état de quelque chose qui est instable, précaire. Donc quand on parle d'une ville, on peut retenir notamment les deux premières définitions. Donc vivre en sécurité serait alors vivre dans un lieu sûr, dans un environnement favorable. Philippe Milburn, en sociologie, quels sont les différents critères qui font qu'un individu se sent en insécurité dans une ville ?
Comme vous l'avez dit, c'est dans une ville, c'est-à-dire qu'on parle essentiellement d'insécurité dans l'espace public, c'est-à-dire dans les rues, sur les dalles. L'idée idée autour de la notion d'insécurité qui est quand même construite largement par le discours médiatique et le discours politique comme notion comme ça. C'est effectivement le fait de sentir qu'on peut se faire attaquer, dévaliser, maltraiter dans cet espace public. C'est-à-dire que en réalité, la notion d'insécurité renvoie beaucoup au fait de voir dans ces espaces des gens qui vous mettent en insécurité, soit parce que ils sont excités, énervés, qu'ils occupent l'espace en permanence, soit parce que ils sont effectivement dangereux et il peut y avoir des agressions ou souvent des agressions entre ces gens dangereux eux-mêmes plus que le citoyen moyen, mais ces situations finissent par effectivement créer un climat où les gens ne se sentent plus totalement en sécurité. Mais ça concerne, dans l'espace urbain, si on prend Rennes, ça concerne certains endroits où il y a effectivement plus de ce sentiment-là qu'ailleurs. Mais Rennes n'est pas la pire des villes en la matière, je pense.
En 2024, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, Rennes a recensé un total de 16 835 crimes et délits pour une population de 227 830 habitants. Donc à Rennes, il y a une augmentation de près de 20% de la délinquance entre 2019 et 2025, ce qui peut entraîner un sentiment d'insécurité chez certains et certaines. Comment est-ce que vous, en tant que sociologue, donc, vous pouvez interpréter ces chiffres ?
Alors, je pense qu'il faut découpler la notion d'insécurité de celle de délinquance. C'est-à-dire que si on donne des chiffres comme ça, c'est la délinquance dite constatée, c'est-à-dire qui ont donné lieu soit à une plainte, soit à une interpellation par la police. Et donc, ça peut être toutes sortes de choses. Et souvent, les chiffres de la délinquance, à partir du moment où on décide qu'il y a de l'insécurité, la police va renforcer son action. Et si on prend, par exemple, tout ce qui concerne la consommation ou le trafic de drogue, elle peut faire des opérations coup de poing, etc. Et donc, on va avoir des chiffres qui sont gonflés par ça. Voilà, donc les chiffres de la délinquance, c'est toutes sortes de choses qu'on ne sait pas forcément à quoi exactement ça correspond. Et alors après, il faut rentrer dans le détail. Une chose auquel on pense rarement, qui rentre dans les chiffres de la délinquance, et ce sont les violences domestiques ou les violences conjugales, hein, et qui sont en augmentation, non pas parce que forcément il y en a plus, mais parce que les gens, enfin les femmes en général, portent plus facilement plainte, et que donc on voit de plus en plus de plaintes arriver au commissariat, et donc de plaintes qui en plus sont traitées par la police, par le parquet. Donc quand on parle d'insécurité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'insécurité dans l'espace public plus que dans l'espace privé. Or, objectivement, on a plus de chances, surtout si on est une femme, de se faire agresser chez soi que dans l'espace public, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité.
Pour résumer, les chiffres recensés pour ce qui est de la délinquance regroupent toutes les formes de délinquance, qui sont donc nombreuses comme vous l'avez expliqué. Est-ce qu'il existe un indicateur ou une statistique qui regroupe uniquement les cas de délinquance qui ont lieu dans l'espace public ?
Alors, j'ai pas forcément les chiffres pour Rennes, on a les chiffres nationaux. On sait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les données, notamment sur tout ce qui concerne les infractions contre les biens, hein, c'est-à-dire les vols, les cambriolages, les vols de voitures, les vols liés à la roulotte, c'est-à-dire dans les voitures, tout ça a tendance à stagner ou diminuer. Il y a une légère augmentation des violences, pas spécialement des violences conjugales, parce qu'il y a une forte augmentation des violences conjugales pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais il y a une augmentation des violences en général, mais là encore on ne sait pas très bien si c'est parce que les gens portent plus plainte, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau national, et c'est sûr qu'on assiste depuis disons le début du 21e siècle à un changement dans les formes de délinquance qui sont de moins en moins sur les biens, puisqu'ils sont de mieux en mieux protégés, hein, les alarmes cambriolages, les alarmes voitures, etc., etc. Et d'autre part, un peu plus de violence, parce que les rapports sociaux peuvent être de plus en plus tendus.
Tout à l'heure, vous disiez que même si on parle beaucoup d'insécurité à Rennes, les chiffres, ils ne sont finalement pas si marquants que ça. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Moi, ça fait 40 ans que je suis à Rennes. Au début, c'était une des villes les plus calmes de France. Hein. Et c'est sûr que les choses ont considérablement évolué, qu'il y a des choses qui se passent à Rennes qui ne se passaient pas avant. Et probablement que le public rennais, les Rennais, surtout ceux qui ont une certaine ancienneté, un certain âge, avaient l'habitude d'une ville calme et qu'il se passe des choses qu'ils ne voient pas directement nécessairement, mais ils lisent la presse locale et bon, et effectivement il y a des événements assez graves qui se sont passés, il faut bien le reconnaître, avec des tirs, enfin des violences à armes à feu, donc c'est des événements qui sont gravissimes et qu'on ne connaissait pas à Rennes avant, donc voilà, mais évidemment il y a bien des endroits où que ce soit en Île-de-France, que ce soit en région lyonnaise, en région marseillaise, où les choses sont bien pires qu'ici, bon. Mais comme on sait, il y a quelques petits quartiers à Rennes qui sont particulièrement touchés, notamment par le trafic de drogue, même si c'est beaucoup moins marqué, beaucoup moins tendu que ça peut l'être dans d'autres villes, et que en plus ça s'est, je pense, un petit peu calmé à la fin 2025. Voilà.
Est-ce que cette augmentation de la violence, ou en tout cas cette impression d'augmentation de la violence, elle est reliée à un phénomène en particulier ?
Il y a une augmentation des faits de violence qui sont relevés par la police et par les plaintes. Donc il y a deux choses. Est-ce qu'il y a une augmentation réelle de la violence ? Ça n'est pas certain. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait beaucoup de violence, mais entre les loubards, par exemple, qui adoraient se cogner dessus à coups de chaîne à vélo, mais ils ne portaient pas plainte, parce que ça faisait partie de c'était leur sport, c'était leur façon de faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu du hooliganisme à une certaine époque qui a... Tu n'as pas disparu, mais qui s'est considérablement amenuisé. Il y a probablement moins de violence. Par contre, il y a une plus forte sensibilité à la violence. Et alors ça, c'est une théorie que je défendrai un peu personnellement. C'est qu'il y a un public, justement parce qu'il n'a pas été élevé dans la violence, qui à un moment donné, se trouvant en situation de violence, décuple sa violence. C'est pour ça qu'on a des situations absolument ahurissantes où il y a 2, 3, 4 jeunes qui en cognent un tout seul à terre jusqu'à la mort. Par un effet d'hyper-violence subite, parce qu'on ne contrôle pas la violence. Voilà. Avant, on la contrôlait, maintenant, on la contrôle pas. Et puis, par ailleurs, il y a une sensibilité accrue vis-à-vis des violences qui fait que la moindre petite bagarre peut donner lieu à dépôt de plainte, intervention de la police, etc.
Vous avez pu l'entendre dans les interventions qu'on a entendues au début des Rennais et Rennaises, et vous en avez un peu parlé d'ailleurs. Les personnes qui semblent le plus touchées par cette insécurité, ou en tout cas qui le ressentent le plus, ce sont les personnes âgées. Est-ce que, statistiquement, c'est le cas, ou est-ce que c'est plutôt une perception erronée ?
Oui, alors les personnes âgées, c'est très spécial parce que elles sont vulnérables par définition. Et donc, la moindre situation d'insécurité, c'est-à-dire des jeunes qui font un peu de bruit ou qui se bagarrent ou qui sont ivres, etc., crée chez ces personnes un fort sentiment de peur. Alors que probablement, enfin statistiquement, à chaque fois qu'on fait des enquêtes, ce ne sont pas les personnes âgées qui sont le plus à risque réel. C'est même les jeunes qui sont le plus à risque parce qu'ils s'exposent dans des espaces publics la nuit, etc. Alors que les personnes âgées, elles sont rentrées à 19h et elles se mettent pas dans des endroits où elles prennent des risques. Donc, c'est justement parce qu'elles craignent un certain nombre de choses que finalement elles sont très peu victimes d'une véritable insécurité. C'est une espèce de paradoxe comme ça, mais c'est lié au fait que ces personnes âgées sont effectivement un peu naturellement vulnérables, se sentent vulnérables, et que si les lieux, enfin notamment dans certains quartiers, moi je sais qu'à Abidjan par exemple, il y a des personnes âgées qui habitent à Abidjan depuis très très longtemps, qui ont vu les choses évoluer, ça les inquiète beaucoup, c'est un peu naturel.
Tomorrow we will learn to
écoutions un titre de 1969, Wait Till Tomorrow de Banana Split, et vous êtes toujours sur Canal B, toujours dans 3 en 1 pour la troisième des 4 émissions spéciales municipales sur la thématique de l'insécurité à Rennes. Et on retourne en plateau avec Philippe Milburn au micro de Manon pour nous parler du sentiment d'insécurité à Rennes dans le cadre des municipales. Donc ces derniers mois, justement, on a beaucoup parlé de narcotrafic à Rennes. Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur relayés par le préfet d'Ille-et-Vilaine il y a quelques jours, 4 homicides sur les 20 enregistrés en 2025 dans le département sont liés directement au trafic de drogue. Est-ce que cette problématique du narcotrafic, elle est plus importante à Rennes que dans d'autres villes ?
Non, elle est probablement moins importante, mais le problème qui est apparu... C'est difficile de le dater, mais dans les deux dernières années au moins, c'est que, alors qu'il y avait un petit trafic de jeunes rennais qui allaient chercher leur drogue, je ne sais où, à Amsterdam ou ailleurs, qui trafiquaient sur place, c'était très localisé et très maîtrisé par la police d'une certaine manière. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des jeunes ou pas moins jeunes qui sont venus d'autres régions, notamment de régions parisiennes, pour essayer de capter les marchés rennais, parce que probablement que le marché rennais est assez important. Et donc, il y a eu une espèce de concurrence pour gagner ces territoires. Cette concurrence s'est traduite par des faits de violence. C'est un phénomène qu'on a connu au niveau national. Les trafiquants ne restent plus sur leur propre ville, mais tendent à vouloir créer un réseau national, avec des grandes espèces de groupes mafieux qui sont plus ou moins basés à Marseille, à Paris, qui cherchent à étendre leur marché. Donc voilà, et cette concurrence, elle se traduit par de la violence, et de la violence à coups d'armes à feu. C'est pour ça qu'on a eu des histoires assez graves à Rennes.
Donc si on résume, il y a à la fois un changement au niveau de l'organisation de ces réseaux informels ces dernières années, mais aussi une augmentation de la violence. Est-ce que les deux phénomènes sont liés ?
Elles sont liées, oui, c'est parce qu'effectivement, il y a cette organisation qui veut s'étendre sur des territoires où elle n'était pas a priori présente de longue date, si j'ose dire, que ça a créé des affrontements et une violence. Et sachant que là encore, cette violence, on a des armes à feu avec des gens qui ne savent pas s'en servir et qui les avaient plus pour inquiéter les autres, pour faire peur, et qui à un moment donné sont amenés à s'en servir, ce qui crée des drames incontrôlés, quoi. On est dans de la violence incontrôlée par des gens qui sont dépassés par ce qu'ils font.
Selon une étude d'octobre 2020 du Crédoc, intitulée « Le regard des Français sur les quartiers sensibles », regroupant notamment donc les quartiers prioritaires, plus de la moitié des répondants voient ces quartiers dits sensibles comme dangereux, notamment à cause des difficultés sociales et de l'isolement. L'une des personnes que l'on a interrogées nous a parlé des associations, notamment sportives, qui se sont petit à petit éloignées des quartiers, comme c'est le cas à Kennedy. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ?
Alors, je ne regarde pas ça de près, mais je vais régulièrement à Villejean, sur les terrains de sport. Alors, je ne sais pas quelles sont les associations, etc., mais il y a une activité assez importante. Les jeunes jouent au foot, pratiquent des sports, et les équipements sont là, et les éducateurs sont là. Voilà, alors est-ce qu'il y a eu, il y en a qui sont retirés, j'ai pas l'impression qu'il y a une forme de dramatisation par rapport à ça. Et je pense que Rennes, en la matière, c'est-à-dire en matière de prévention de la délinquance, mais plus exactement prévention spécialisée, prévention générale, c'est-à-dire s'occuper des jeunes pour ne pas qu'ils tombent dans des pratiques illicites, remplit plutôt bien son rôle. C'est une longue tradition qui s'est installée depuis 30-40 ans à Rennes, et il y a ça. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. C'est sûr que quand il y a du trafic, ça rapporte beaucoup et que certains jeunes, une mité, se trouvent embarqués là-dedans. Ceci étant, on est assez loin de la situation dans d'autres quartiers, donc pour moi, les gens que je connais bien, Morpin un petit peu, je connais beaucoup moins le Blône, mais c'est des quartiers où il y a ce qu'il faut en termes d'équipement associatif, etc. Et que ça ne suffit pas, comme je l'ai dit, mais il faut continuer à en avoir, peut-être à le renforcer en effet, parce que ça fait partie des réponses qu'on peut apporter, qui ne sont pas simplement des réponses de sécurité en termes de maintien de l'ordre.
Comme on l'a évoqué, les phénomènes de délinquance sont en hausse à Rennes ces dernières années. Face à la montée de ce sentiment d'insécurité qui en découle, les candidats et candidates à la municipalité rennaise proposent en grande partie l'augmentation du nombre de forces de l'ordre ou encore des dispositifs de vidéoprotection. Est-ce que pour vous c'est une solution ou au contraire, est-ce que vous pensez que cela risque d'augmenter la surveillance et la répression ?
C'est un élément de réponse, c'est pas la solution. Est-ce qu'il faut plus de police ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut plus de vidéosurveillance ? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a et ça marche relativement. Je sais que par exemple sur la dalle Kennedy, après les événements qui sont arrivés, on a mis des policiers qui passent la moitié moitié de la journée occupée. Ce sont des réponses de sécurité. C'est à un moment donné nécessaire pour répondre à des problèmes très ponctuels, de la même manière que la prévention fait partie. Ma réponse en général, c'est de dire que pour ce qui concerne les questions de délinquance, il faut autant de réponses à la délinquance qu'il y a de formes de délinquance. C'est-à-dire qu'on ne répond pas de la même manière aux violences conjugales, au trafic de drogue, et au vol à l'arraché, etc. Donc il faut des réponses adaptées à chaque fois. Et pour ça, il faut se donner la peine d'analyser les formes de délinquance. Il faut se donner la peine d'analyser ceux qui commettent ces actes, voir quels sont leurs problèmes, d'une certaine manière. On sait le problème des jeunes qui sont mineurs non accompagnés, donc une petite minorité pose problème et il y a une réponse par rapport à eux. Donc il faut multiplier les réponses, mais effectivement, quand il s'agit de faire un programme électoral en 5 pages ou 10 pages, c'est difficile de rentrer dans le détail. Donc à chaque fois, on augmente le nombre de policiers municipaux et on augmente le nombre de caméras. Ça ne solutionne pas tout. Par contre, sur la question de la vidéoprotection, se pose la question qui va se poser, alors, apparemment pas encore à Rennes, mais c'est de l'usage qui en est fait, notamment avec l'intelligence artificielle derrière et la reconnaissance faciale. Parce que là, on franchit, si vous voulez, la surveillance par caméra. Elle est surtout dissuasive. C'est-à-dire que, finalement, dans le métro, je vois que les gens prennent leur téléphone, par exemple, à la main et passent leur temps. Et donc, ils n'ont pas peur de se faire arracher leur téléphone. Donc, ça veut dire qu'on est relativement protégé. Et c'est lié au fait qu'il y a des caméras partout et que ça dissuade certainement ceux qui pourraient avoir des velléités de commettre des actes. Donc, cette fonction dissuasive, on passe à un autre cap si on est dans la reconnaissance faciale. Parce que la reconnaissance faciale, ça permet d'identifier des gens et avec tout ce que ça peut induire comme atteinte aux droits de l'homme, etc.
Vous dites que chaque forme de délinquance doit avoir sa propre réponse. Pour ce qui est des formes de délinquance dont on parle aujourd'hui, donc celles qui se passent en ville, quelle forme de réponse existe ?
Oui, il y a deux choses. Et la question du trafic de drogue est une question très particulière qui mériterait qu'on ait une vraie politique. Alors là, pas au niveau local, mais au niveau national, parce qu'au niveau local, on n'y peut rien. On parle en termes de politique publique nationale et texte de loi, etc. Bon, il y a toutes sortes de réponses à ça. L'une des réponses étant assez simple, c'est la légalisation qui couperait les pattes totalement à toute forme de trafic. Parce que le problème de du trafic de drogue, c'est que ça rapporte de l'argent mieux que d'aller travailler, et y compris à des jeunes gens qui n'ont pas de qualification, vont pas trouver de travail du tout, ou trouver des travails très mal rémunérés. Donc, pour eux, faire un peu de trafic, ça va leur apporter 3000 euros par mois, net d'impôts. Donc, c'est tout bénef. Alors, avec le risque que ça comporte d'un petit séjour en prison. Mais finalement, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre, d'une certaine manière. Donc, voilà, il y a ce problème. Bon, les violences, comme je l'ai dit, par ailleurs, il y en a pas tant que ça. Et elles sont liées en grande partie à l'alcool ou à des consommations de drogue. Elles sont liées à ce que mon collègue Marwan Mohamed, qui est sociologue un peu spécialiste de la question, appelle les embrouilles. Hein, ça, c'est un peu dans les quartiers, entre les jeunes, et ils font des histoires autour de pas grand-chose. Puis ça monte, ça part en vrille, comme on dit communément, ça monte en chaleur, et tout d'un coup, ça donne lieu à des espèces de bagarres dont certaines peuvent donner lieu à des blessures, voire à des coups mortels. C'est particulier, là encore, hein, à chaque fois, chaque type de public, comme je disais, nécessite sa réponse. Il n'y a pas une réponse sur la violence en général, sachant que la violence qui est liée au narcotrafic, elle est très ponctuelle et elle est liée à des phénomènes de concurrence ponctuelle. Le narcotrafic a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes, parce que c'est mauvais pour leur commerce. Hein. Faut bien dire les choses comme elles sont.
Finalement, ce qu'on comprend, c'est que la montée du sentiment d'insécurité, elle dépend de plusieurs facteurs, donc pas seulement l'augmentation de la délinquance. Un chiffre qui, comme vous l'avez expliqué, concerne aussi les violences privées comme les violences conjugales. Les réponses face à cela, elles sont nécessaires, mais en fait, elles ne dépendent pas uniquement des villes.
Le problème de cette thématique-là, l'insécurité, c'est une question politique qui apparaît comme plus facile à régler que d'autres problématiques qu'on met un peu sous le tapis parce que c'est plus compliqué à régler, tout au niveau local et encore plus même au niveau national. Donc je pense au problème du logement, par exemple. À Rennes, ça devient très compliqué de trouver des logements, mais ça, on peut pas les faire sortir subitement. Du problème du chômage ou d'autres problèmes comme ça, sociaux, qui sont très très particuliers et que nécessiteraient une réponse politique, locale, nationale ou régionale. Par exemple, à l'aide sociale à l'enfance qui rencontre des problèmes importants de moyens, puisque c'est départemental, elle a des problèmes de moyens, et une bonne partie de la jeunesse qui est en dérive, c'est de la jeunesse qui relève de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés familiales. Donc il faut toutes sortes de relais de ce type-là, ce qui relève d'ailleurs potentiellement d'une politique municipale, hein, si on parle de crèches, si on parle de, voilà, de centres d'animation ouverts le soir, bon, et toutes sortes de choses de ce type-là. Et voilà, mais ça, et c'est plus compliqué à régler, c'est plus compliqué d'avoir des projets, c'est plus compliqué d'obtenir des résultats à court terme, et, alors que mettre des caméras et des képis, ça rassure le bon public, quoi. Et voilà, c'est pour ça que c'est sous tous les programmes, même ceux qui se veulent les moins sécuritaires, ils ont quand même un programme police, caméra, et parce que sinon, leurs adversaires auront encore plus, diront qu'ils sont complètement angéliques et qu'ils ne tiennent pas compte des questions de sécurité.
Merci Philippe Milburn. Je vous rappelle, vous êtes professeur de sociologie à l'université Rennes 2.
Merci à vous.
Merci à Philippe Milburn d'avoir répondu aux questions de Manon au micro de 3 en 1 et merci aux Rennais et Rennaises qui ont répondu à nos questions dans les quartiers de Kennedy et Sud-Gare. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi à 12h15 ou en podcast sur le site canalb.fr. Bonne journée à vous.